Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chers auditeurs, ici Naomi Titi. Avant d'écouter votre épisode des couilles sur la table, laissez-moi vous présenter le cycle ciné Contre-champ, lutte collective, film féministe de la Cinémathèque du documentaire de la BPI, notre sponsor. La programmation, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, propose des classiques restaurés, tels que « Sois belle et tais-toi » de Delphine Seyrig, qui, moi, m'a passionnée, mais aussi des réalisations plus récentes et internationales, comme « Le passage du col » de Marie Botois ou bien « Rebut » de Mayara Santana. Contre-champ, c'est plus de 50 ans d'histoire de la solidarité transnationale des mouvements féministes, à travers un patrimoine audiovisuel subversif et émancipateur. C'est aussi un parcours qui invite les spectatrices à questionner le discours dominant en utilisant le cinéma comme moteur d'engagement. Et si, comme moi, vous aimez le cinéma documentaire, ce cycle vous intéressera forcément. Rendez-vous du 19 avril au 4 juillet au cinéma du Centre Georges Pompidou à Paris. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
Salut à tous, c'est l'équipe d'ISO. Un petit message à destination des parents, des tontons, des tatas, des grands frères ou des grands-mères. On a créé une chaîne de podcast pour les enfants de 3 à 9 ans. DISO, D-I-S-O. C'est par abonnement sur Apple Podcasts et Spotify, 3,99€ par mois. Et c'est un super cadeau pour faire découvrir l'audio aux enfants dès le plus jeune âge et les aider à décrocher des écrans. On propose de nouvelles histoires chaque semaine, avec des créations originales, des histoires du monde entier et des super classiques comme les aventures de Cornebidouille. D'ISO sur Apple Podcasts et Spotify, avec déjà plus de 350 histoires au catalogue. À bientôt.
Les couilles sur la table, épisode 13. Dans cet épisode, on va parler de consentement sexuel et plus exactement de comment cette notion est transmise aux garçons. Je suis avec la réalisatrice et journaliste Delphine Dilly, qui travaille depuis des années sur ce sujet. Bonjour.
Bonjour.
Delphine Dilly, vous avez rencontré des femmes qui ont eu des rapports sexuels non désirés au début de leur vie sexuelle. Vous avez réalisé un documentaire diffusé sur France 2 dans la case infrarouge le 6 mars 2018. Ça s'appelle « Sexe sans consentement ». Ça dure 55 minutes et c'est génial. Vous êtes aussi l'autrice d'une série de témoignages sur le même thème dans la fabuleuse émission de France Culture « Les pieds sur terre ». Et dans votre film, ce sont les filles qui témoignent. Elles sont 6 femmes. Elles ont la vingtaine, il y en a une qui est plus âgée, qui a la soixantaine. Et elles racontent, à visage découvert, en détail, calmement, comment un soir, leur amie, leur flirt ou même leur futur mari ont eu avec elles un rapport sexuel alors qu'elles ne le voulaient pas. Ce sont des témoignages très forts, très courageux, et je pense qu'ils ne peuvent pas laisser indifférent qui que ce soit, parce que, en fait, je crois que ça nous est quasiment tout arrivé. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Et si on demande autour de nous, si vous demandez autour de vous, presque toutes les femmes ont eu leur lot de sales histoires, de moments où on a cédé à du sexe sans en avoir véritablement envie, sans avoir consenti. Je crois qu'on a toutes un jour connu ce sentiment que là, on allait passer à la casserole et qu'on n'avait pas vraiment le choix, en fait. Et ce sont ces histoires-là que votre film raconte. Les filles du film ont dit non, doucement, ou alors elles se sont figées, et le garçon avec qui elles étaient ont continué. Dans le film, vous avez aussi pris le parti d'interroger les garçons, pas ceux qui ont abusé de ces filles, mais des garçons, des beaux garçons dans un festival, l'été, des beaux gosses qui ont la vingtaine. Et c'est à eux, à ce qu'ils disent dans votre film, qu'on va s'intéresser dans cet épisode. Voilà comment ça commence.
Le consentement.
Ouais.
Donc c'est ça la question, qu'est-ce que est le consentement?
Bah pour toi, ouais, comment tu le définirais?
À partir du moment où deux personnes sont d'accord. Je pense que c'est la meilleure des définitions, y a pas à aller plus loin.
Bon bah voilà, là ça a pas l'air compliqué dit comme ça, hein. On se demande même pourquoi faire un doc sur le sujet en fait.
Bah oui, on s'était dit que c'était bien d'ouvrir le film en fait avec ces garçons pour avoir en fait une sorte du fantasme et de l'idéal du consentement aujourd'hui en France en 2018, enfin à l'époque en 2016, mais Voilà, qu'est-ce que, si on demande à des garçons comme ça, dans la rue, ou en nous, c'était dans les festivals, ou à la plage, etc., si on leur demande qu'est-ce que c'est le consentement, ça a l'air assez simple pour eux. Et c'est, voilà, c'est ce que disent garçons, c'est quand deux personnes sont d'accord. Mais bon, à la fin, ils me regardent quand même en me disant « Non, c'est ça ou c'est pas ça ?» Enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient à la fois très très sûrs de ça, et en même temps, ils avaient toujours un peu un regard où ils cherchaient mon approbation. Donc c'était ça qui était intéressant aussi.
Oui, parce qu'en fait, on peut se dire, c'est aussi un fantasme libéral, quoi. C'est des individus égaux, capables de s'exprimer. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord, l'autre le respecte, et dans des cas extrêmes, l'autre force le consentement, et c'est un viol, et c'est tout, en fait. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, en fait.
C'est vrai que, enfin, je m'en souviens vraiment très bien qu'un jour, quand on avait les chargés de production qui étaient avec nous de France 2, c'était intéressant parce que il y avait donc Anne Roucan de France 2 avait dit « C'est fou comme ce film, en fait, montre qu'il y a un fantasme d'égalité chez ces filles aussi. » C'est-à-dire que cette notion du fantasme de l'égalité, je trouvais que c'était intéressant aussi de le traiter, en tout cas de chercher à le comprendre dans le film, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se dit bah, « moi je peux aller en boîte, bah, moi je peux coucher avec qui je veux, bah, moi je peux faire ce que je veux, je peux l'embrasser et pas coucher avec, quel est le problème ?» Et en fait, ce que raconte, et c'est pour ça qu'on a interrogé aussi les garçons, c'était pas que pour les punir ou juste pour les piéger, c'était pour comprendre, mais pourquoi vous vous comprenez pas quand cette fille elle vous dit « mais non, j'ai pas envie en fait maintenant ?» Donc c'était vraiment chercher à comprendre ces endroits-là où ça déraillait, où il n'y avait plus la communication et certainement plus l'égalité, en fait. Où c'était, tout d'un coup, on tombait du ciel, quoi. En tout cas, pour les jeunes femmes. Pourquoi est-ce qu'il ne m'entend pas? Pourquoi est-ce qu'il ne m'écoute pas? Alors que je lui ai dit, donc, à la fois qu'elles racontent leurs histoires, mais entendre ces autres garçons pour qui, ouais, c'est un peu bizarre que la fille, elle vienne chez moi, mais après, elle ne veut plus coucher avec moi. Donc, c'était interroger. Vraiment, ce mot de fantasme, je le trouve vraiment intéressant pour les garçons. C'était, qu'est-ce que c'est vos fantasmes de l'égalité ou des rapports garçons et filles aujourd'hui?
Et pour eux, il n'y a pas de problème de consentement, en fait. Ça n'est même pas un problème.
Non, a priori, en tout cas, eux ont tous l'impression qu'ils savent lire les signes.
D'ailleurs, vous leur posez la question...
Comment tu sais qu'une fille, elle a envie de coucher avec toi?
Beaucoup de signes. Les yeux, le regard.
Il y a une chose, c'est sûr, c'est le remettage de cheveux.
Ah ouais? Donc,
elle remet ses cheveux, c'est un bon indice. Ça peut être un mauvais indice, mais ça peut être un bon indice.
Après, si je dis par exemple à une fille, on rentre à la maison, et qu'elle dit oui, après, pour moi, ça veut dire que c'est bon.
La fille, elle te dit rien, toi non plus, tu dis rien, ça vient tout seul.
Voilà, donc leur fantasme, c'est ça.
D'après ces extraits et d'après les choses qu'on a entendues, parce que évidemment, on a interrogé beaucoup de garçons, une cinquantaine, donc voilà, j'ai 40-50 pages de retranscrites de ces interviews avec les garçons, et beaucoup disent « on se fantasme ». Si on continue sur ce terme-là, que ça se sent. C'est du feeling, c'est du regard.
C'est la mèche de cheveux.
C'est la mèche de cheveux. Bon, là, c'est un peu exagéré. Mais en tout cas, c'est du feeling, c'est du fluide, quoi. Ça se sent, ça se... Souvent, ils avaient du mal même à m'expliquer, à me dire, mais tu le sens quand même quand une fille, elle veut ou elle veut pas. Donc, cette espèce de fantasme aussi que... Il faut que ça reste dans... C'est une danse et il ne faut pas que ça soit explicite.
Ouais, donc là, c'est la question du consentement explicite. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Mais dans les histoires que vous recueillez chez les femmes, pourquoi est-ce qu'elles cèdent sans consentir, en fait? C'est quoi? À quel moment ça déraille?
Ça déraille pour les filles au moment où elles se disent « En fait, ils ne m'écoutent pas ».
Parce qu'elles disent toutes non. Il faut dire que dans le film, elles disent explicitement non.
Ouais, pardon. Dans le film, elles disent toutes non. Elles le disent en effet soit doucement, soit pas très fort, soit pas assez longtemps. Mais elles, enfin, pas assez longtemps, selon ce qu'elles se reprochent à elles-mêmes après. Mais elles l'expriment toutes. Elles le disent, elles disent non, j'ai pas envie, non, bah, pas maintenant. Donc, ça déraille quand elles sentent que soit il va pas lâcher l'affaire, soit ça déraille parce que concrètement, elle a pas pu le repousser physiquement. C'est le cas de Natacha au début. Ça déraille, moi je le disais dans le dossier, quand la communication passe plus du tout. C'est-à-dire qu'elles sont plus écoutées et même pas entendues, quoi. C'est comme si le type entendait plus. Il y a vraiment plusieurs choses. Il y a soit elles ne peuvent rien faire, c'est trop tard. Le garçon les a pénétrées. Soit elles se disent, tiens, si je continue là, vu qu'il n'entend pas ce que je suis en train de lui dire, c'est-à-dire qu'il n'entend pas mes paroles, il ne semble pas m'écouter, si je continue à dire non, est-ce que ça ne va pas devenir plus violent? Donc elles ont peur de cette violence potentiellement plus grande, et soit elle cède parce qu'il est saoul, quoi. Parce que il est tellement, tellement, tellement insistant qu'au bout d'un moment, elle, je pense qu'il y a une part d'elle qui se dit « Allez, on l'a tout entendu hein, parmi toutes nos amies, je pense, je le fais pour qu'il me foute la paix. Comme ça, je suis tranquille. » Et sauf qu'après, c'est là ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle raconte que ben non, l'impact que ça a, c'est pas juste céder... Le problème, c'est qu'après, l'impact est plus grand que ce petit moment où on se dit « Allez, je négocie et c'est pas grave. »
Le consentement, ça implique qu'on puisse véritablement choisir entre plusieurs propositions. Et là, les filles, elles ne pouvaient pas, en fait, choisir entre différentes propositions. C'est-à-dire qu'elles ont peur que... Enfin, le garçon peut devenir violent. Et ça, c'est une inégalité qui existe. Donc ça casse quand même le fantasme de l'égalité. Parce que dans les faits, il y en a un qui peut être violent, en fait.
Alors, il y a ça, mais ce qui est vrai, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, à quel moment les filles cèdent et pourquoi elles cèdent aussi... Ce qui est intéressant et ce qu'on voulait absolument faire dans le film aussi, c'était qu'il y avait tous ces éléments de violence possible supérieure après. Il y avait aussi l'élément, surtout, d'analyser pourquoi la fille, elle cède à un moment donné aussi. Et pourquoi elle se dit, en culpabilisant d'avoir allumé le mec, elle se dit, non, en fait, je peux pas lui refuser ça, vu que tout à l'heure, je l'ai embrassé. Ce qui est vachement intéressant, et c'est pour ça que le film nous a passionnés, toute l'équipe qui a fait ce film, c'était de se dire, en fait, c'est un peu des mélanges de raisons dans la tête des filles à ce moment-là. C'est que c'est à la fois une menace, un danger qu'elles sentent et qu'elles perçoivent, mais c'est aussi... elle-même se culpabilise pendant l'acte en se disant non mais enfin ou juste avant en se disant non mais tout à l'heure je l'embrasse et tout à l'heure j'ai bu des verres avec lui, tout à l'heure il a été tellement sympa avec moi, ça a l'air de tellement lui faire plaisir, il a tellement envie, ok.
Bah, en fait, il y a quand même cette idée que le consentement, c'est une décision. C'est-à-dire comme si on disait oui, et du coup, ça dit oui pour tout le reste, en fait. Est-ce que le consentement, c'est une décision ou est-ce que ça devrait être un continuum? Est-ce que c'est...
Moi, ce qui me semble clair, c'est que à partir du moment où les filles, elles ont dit non à un moment donné... Ben, là, c'est le moment où les garçons, en tout cas de ces histoires, ou même en général, devraient ouvrir les oreilles et se dire « Ah bon ?» et essayer de comprendre, soit avec leurs propres moyens, soit en parlant, tout simplement. Non, pourquoi ? Parce que réellement, t'as pas envie ? Ou comprendre que c'est un jeu, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que ce que je trouve quand même étrange à chaque fois, c'est comme ce que dit Louise, elle dit « Le non ne suffit pas. » C'est comme s'il fallait le prouver, quoi. Il fallait l'expliquer. Il faut le justifier. Cette phrase est géniale parce que on en est là, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans les années 2010 et on doit expliquer pourquoi on ne veut pas. C'est quand même le comble. Donc, cette histoire du continuum, je ne sais pas. Je pense que quand il y a une relation et une communication qui se fait tranquillement, même parfois non-verbale, OK, là, il y a du continuum. Mais il n'y a plus continuum à partir du moment où quelqu'un dit non. Donc, quand quelqu'un dit non... Ben, donc, ça veut dire non, en fait.
Bah, c'est aussi l'idée que c'est pas parce qu'on dit oui à un moment que ça veut dire oui à tout
oui.
le reste.
Alors ça, c'est une autre notion, c'est-à-dire, oui, ce garçon qui dit, une fille qui dit non, enfin, une fille qui en parle beaucoup quand il veut dire ça, c'est-à-dire qu'il doit parler de sexe, qu'il doit, voilà, le séduire, être dans un rapport de flirt et tout ça, et qui, finalement, ne veut peut-être pas avoir de rapport sexuel, pour lui, mais pour beaucoup d'autres garçons, moi, c'est beaucoup de garçons me l'ont dit, c'est une allumeuse. C'est-à-dire que la notion qu'on puisse interrompre un rapport sensuel, sexuel, après des baisers ou après des caresses, et qu'il n'y ait pas coït et qu'il n'y ait pas pénétration, pour beaucoup de gens, mais même pour beaucoup de filles, c'est pas possible.
D'ailleurs, pour connaître l'état de l'opinion, il y a une étude qui a été faite par Ipsos en 2015 sur le consentement. Et je vais citer les résultats parce que c'est quand même troublant. Donc, il a été posé à 1000 Français et Françaises la question suivante. Est-ce que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées ? Réponse, il y a 21% de la population, donc une personne sur cinq, qui pense que oui, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées dans une relation sexuelle. Et chez les plus jeunes, donc chez les 18-24 ans, ils sont carrément un tiers à le penser. 31% pensent que voilà, une femme peut prendre du plaisir à être forcée.
Moi, j'ai pas de réponse et j'ai fait ce film et je suis pas chercheuse et donc j'ai pas autant de légitimité à parler de ça. Mais ce qui est évident, c'est que, enfin, tout le monde en parle, mais tout ce que regardent les jeunes personnes, enfin, tout ce qui est image pornographique, ça peut pas aider. Enfin, forcément, la fille, souvent, elle est soumise et elle prend du plaisir tout d'un coup après avoir été prise de force. Donc je vois pas comment ça peut s'arranger tellement avec toutes ces images véhiculées. Et ensuite, de l'autre côté, je dirais, enfin pas de l'autre côté, mais de l'autre À l'autre extrémité, je dirais, de l'âge, les personnes plus âgées ou avec qui j'en ai parlé, moi, pendant toute la fabrication du film et même après, me disaient « Mais oui, quand même, on peut prendre du plaisir à être forcé. » Et ça, je dirais que, par exemple, j'avais parlé avec une amie des fantasmes de viol qui étaient discutés chez des sexologues. C'était vachement intéressant parce que moi, j'étais plein dans le film. J'étais là « Quoi ? Comment ça ? Mais c'est pas possible ? Comment ?» Et en fait, il y a un endroit, je pense, qui est intéressant aussi à explorer, c'est l'intimité de chacun. Et les fantasmes de chacun, ils appartiennent quand même à chacun.
À chacun,
mais
ils sont dans la culture quand même.
Mais ils sont dans la culture. C'est-à-dire que je pense qu'ils deviennent presque safe. Enfin, comment dire ? Ces fantasmes-là, quand ils sont chez les jeunes gens qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment on fait, qui n'ont pas encore d'expérience, qui n'ont pas... Parce que les mecs ou les nanas de 30 ans, 35 ans, déjà 40 ans, c'est pas pareil déjà, je trouve. Mais les très jeunes de 15 à 25 à 30, des fois, c'est compliqué dans le sens où ils n'ont pas encore construit leur imaginaire. Et donc, là, ça devient dangereux que ça soit trimballé comme image, en fait. Parce que...
Comme modèle, quoi. Comme modèle, idée, quoi. Que la fille dit non, ça veut dire oui, voilà. Que la fille va bien aimer être forcée, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un truc hyper présent dans notre culture.
Mais ouais.
En fait, est-ce qu'on peut dire, moi j'ai l'impression que oui, mais qu'on vit dans une culture où le non-consentement des femmes, c'est plus sexy que leur consentement, en fait. C'est excitant, le non-consentement d'une femme.
Ah bah, d'après ce que j'ai recueilli, moi, comme témoignage, donc il y a deux étés en 2016, oui.
Il y a un deuxième chiffre qui est intéressant dans cette étude, c'est on demande à ces Françaises et Français s'ils sont d'accord avec cette idée. Lorsqu'on essaye d'avoir une relation sexuelle avec elles, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. Et bien, résultat, il y a 20% de la population qui pense que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, mais en fait, ça veut dire oui. Donc,
En tout cas, moi, ce que je sais dans ma vie personnelle et de ce que j'ai recueilli avec ce film, c'est que cette image de la femme qui résiste, c'est plus excitant que la femme qui, soi-disant, s'offre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle dise non à un moment donné pour préserver je ne sais pas quoi. Soit un degré de sexiness, je ne sais pas. En tout cas, pour préserver le jeu et la drague, il semblerait, dans ce que j'ai entendu, que de résister, ça soit hyper important. Alors, ils ne le formulent pas en disant forcément tous non, mais beaucoup de garçons que j'avais interviewés à la plage et... m'ont beaucoup dit, si ça marche tout de suite et si c'est pas drôle.
C'est pas oui, drôle, c'est pas fun. Il y a l'idée que le jeu, il faut convaincre la fille, il faut la conquérir.
Voilà,
il faut,
plus que le non-consentement. C'est-à-dire qu'ils le disent pas comme ça, ils disent pas à une fille qui dit non, c'est sexy. Il y en a qui le pensent et il y en a qui l'ont dit dans le film. Mais ils le disent surtout, je pense, le contexte dans lequel ils le formulent et la manière dont ils le formulent souvent, c'est... Il faut quand même qu'il y ait du jeu. Il faut quand même que je puisse sentir que je la... Voilà, qu'il y ait
un challenge.
Un challenge, que je puisse la conquérir. C'est-à-dire que c'est pas conçu... C'est ça qui est intéressant, justement. C'est qu'eux ne voient pas qu'ils sont en train de dire que le non-consentement peut être excitant. Eux, ils pensent que ça fait partie d'un jeu sexuel, érotique, même simplement de séduction, en fait.
Mais c'est vrai, il y a aussi des femmes qui pensaient... Enfin, dans la culture, il y a cette idée, dans la culture même artistique, je veux dire, c'est plein dans nos romans, dans nos films, dans nos séries.
Partout.
C'est partout l'idée qu'une femme qui se respecte, d'abord, elle ne s'offre pas. Surtout pas.
Et c'est cette idée de se respecter aussi, c'est encore toute une histoire, mais oui, ouais, carrément.
Enfin, là, on va pas se mettre du côté des filles, mais en tout cas, que pour un garçon, la vraie conquête sexuelle, elle se fait... elle se fait de façon martiale, en poussant les résistances des filles et en...
Et par exemple, il y avait un garçon qui s'était pas mis dans le film, mais il a dit à un moment donné, il dit moi par exemple, tu vois, là on est au festival, moi je m'en fous que les filles, au contraire, allez-y les filles, couchez avec des mecs autant que vous voulez, dans les toilettes, je m'en fous, comme vous voulez, c'est-à-dire liberté totale. Mais par contre, moi je n'épouserai pas une fille comme ça.
Ah oui, alors ça, c'est encore aussi tout un, un truc.
C'est-à-dire que si elle résiste pas, enfin bref. Donc
c'est l'idée de faire monter sa valeur en se refusant. Enfin, bon, et puis aussi l'idée qu'une fille qui dit non, finalement, peut quand même tomber amoureuse de vous après. J'ai recueilli quelques exemples que j'ai pris dans un super article qui a été traduit de l'américain, un article signé David Wong, je vais le mettre sur le site, où il explique que lui, il a 40 ans et il fait la liste de plein de films qu'il a adorés et qui lui ont servi de modèle. Donc, il y a James Bond, donc dans tous les James Bond, en fait, les filles sont pas d'accord, mais finalement, il leur saute dessus et elles sont d'accord. Dans Le Masque de Zorro, il y a une femme qui essaye de tuer Antonio Banderas, il se défend, il lui déchire ses vêtements avec son épée, il l'embrasse de force et elle tombe amoureuse de lui. Enfin, c'est quand même hyper présent quoi, dans nos représentations, dans la fiction, dans tout, et aussi dans le porno.
Oui, il y a ça, et puis il y a aussi, moi là, récemment, j'ai dû rester un peu tranquille chez moi pendant une semaine, et j'ai regardé plein, je l'avoue, de comédies romantiques. Et en fait, c'était intéressant. Américaine, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup alors, de fois où, en fait, toute cette notion de résister et d'attendre quelques jours avant de coucher avec le... En fait, c'est partout, tout le temps. Et moi, ayant vécu aux États-Unis, c'était comme ça. Non, ne lui réponds pas tout de suite.
Attends trois jours.
Non. Donc, c'est-à-dire que cette notion-là de se, soi-disant, entre guillemets, préserver pour je ne sais quoi... Elle est donc.
Non, et puis chez les garçons, l'idée que voilà, il va falloir que la fille va dire non, c'est dans l'ordre normal des choses et tout. Donc, du coup, comment distinguer le non du non? Alors, ça pose cette question qui est quand même un peu dérangeante, c'est est-ce qu'on peut violer sans s'en rendre compte? Il y a deux des filles, c'est très troublant dans le film parce qu'elles parlent des garçons qui ont abusé d'elles, et voilà ce qu'elles en disent.
Je pense pas que ce soit un prédateur sexuel, je pense que c'était juste un gars qui avait pas capté qu'en fait il y avait une vraie notion de consentement chez les filles et qui s'était dit je suis un peu beau gosse de toute façon, bien sûr qu'elles sont d'accord.
Et ça c'est quand même c'est un drôle de truc quoi, les mecs se sont pas rendus compte, enfin c'est ce qu'elles disent.
Donc vous voulez dire est-ce que c'est pas vrai?
Non, est-ce que le problème c'est pas la représentation du viol et la représentation du non-consentement, c'est-à-dire que vu que les filles qui disent non, c'est représenté comme dans la fiction, etc., comme quelque chose d'excitant et tout. Et ben en fait, les garçons qui abusent des filles qui disent non ne réalisent pas qu'ils les violent en fait. Parce que on imagine que le viol c'est l'agresseur avec un couteau de façon hyper violente et tout. Alors que là c'est pas des abus avec violence.
Alors ça reste un mystère de savoir si les garçons qui sont mentionnés dans le film, donc qui ont agressé les filles en question, ne se rendaient vraiment pas compte. Ça reste vraiment une question et c'est toute la question du film, c'est-à-dire...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 000 lieues sous ma chair » dans le podcast « Le cœur sur la table ».
Est-ce que la question, c'est est-ce qu'ils s'en rendaient compte quand l'une des filles dit que ce n'était pas un prédateur sexuel, c'est-à-dire que Elle a à la fois raison, je pense, et à la fois peut-être elle se rend pas compte qu'il avait dû un peu préparer son coup. On n'en sait rien, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que
Ouais.
Ça serait vraiment intéressant
d'avoir les garçons. Ouais. Hein. Ouais, moi, d'ailleurs, enfin, non, mais.
Appel à un épisode 2.
Bah, non, mais j'aimerais bien, hein, bien sûr. En fait, on se demande tous et toutes. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le podcast. C'est. On peut recueillir la parole des victimes, mais où sont les violeurs, en fait? Pourquoi on n'entend jamais de violeurs? Pourquoi on n'entend jamais des agresseurs sexuels? Est-ce que c'est parce qu'ils ne s'en rendent pas compte? J'en doute, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte.
Moi, je pense que ces deux garçons-là, effectivement, il y en a un qui s'en est soi-disant rendu compte, qui a réalisé qu'il l'avait forcé, qui a eu un cheminement féministe aux côtés de Louise, qui l'a embarqué dans des associations et dans des endroits. Donc ça, je trouve ça assez étonnant et assez... C'est pour ça qu'on l'a gardé dans le film, d'ailleurs, qui lui dit quand même « je t'ai peut-être violée ». Bon, il dit « peut-être hein ». Il a fait un cheminement, je pense. Donc je pense qu'il y a des garçons, et j'espère qu'ils font du cheminement, je pense qu'il y a des garçons qui vont voir le film ou qui ont vu le film, qui ont fait un cheminement qu'ils n'exprimeront pas forcément, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'à un moment donné, ils ont forcé des filles. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut violer sans s'en rendre compte ? Oui, je pense qu'il y a des garçons qui forcent des filles sans se rendre compte de leur violence, tout comme il y a des garçons qui prononcent des phrases dans le film qui peuvent être violentes et ils ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos.
Et à propos de violence, il y a une phrase qui m'a beaucoup troublée à propos du consentement explicite, parce que donc, tout le problème, c'est qu'on n'explicite pas le désir, la demande, le consentement, etc. Et il y a un des garçons qui dit ça.
Bah, c'est pas trop facile de dire vraiment... On fait l'amour, on baise ou des trucs un peu violents, quoi.
J'avais pas fait attention. Il faut un
il
peu plus de poésie.
Que ça, c'est violent.
Un peu de poésie, un peu de
théâtre. Il trouve que est-ce que tu veux faire l'amour avec moi, c'est violent. Donc on en revient à la question du consentement explicite. Comment ça se fait qu'on trouve ça tellement anti-érotique de verbaliser le consentement, en fait?
Moi, je suis plus vieille que les gens qui sont interviewés dans le film et je comprends pas, en fait, pourquoi ça leur fait peur, parce qu'il y a, enfin, ou pourquoi ils pensent que c'est violent, quelqu'un qui vient vers vous. Et en même temps, moi, je suis la première à avoir fait un chemin très, très long pour exprimer ce que je voulais. Donc, comment dire, je peux comprendre que ayant baigné dans cette culture-là, on estime que c'est violent. Peut-être pas violent, mais d'une certaine manière un peu agressif, un peu brutal.
Et anti-érotique, on dit que ça tue le désir. On dit que...
Parce qu'on n'est pas habitué, parce que je pense qu'on n'a pas inventé des nouveaux codes autour de ça. Parce qu'on n'a pas encore à inventer ces codes, en fait.
Ils existent ailleurs. Il y a un très beau texte, hélas il est en anglais, mais qui a été écrit par Judith Duportail, où elle explique qu'elle a dû attendre d'avoir 31 ans et de vivre à Berlin pour sortir avec un garçon qui lui a directement demandé si c'était OK qu'il lui caresse le ventre, je crois, dans un club, et qu'elle a trouvé ça hyper sexy, en fait. Elle a trouvé ça hyper excitant, et qu'en fait, il faut vraiment réinventer nos codes de séduction et les codes érotiques. Et ça pose la question du désir féminin, en fait, au-delà du consentement, parce que dans le consentement, il y a quelque chose d'un peu passif, en fait. C'est-à-dire, l'homme propose et la femme consent. Mais en fait...
Presque de soumission, enfin,
oui.
D'acceptation. Ouais.
Et du côté des filles, il y a d'ailleurs une fille qui le dit dans le film, elle dit que si c'était plus facile pour les filles de dire oui, c'était plus facile pour les filles d'exprimer leur désir, si c'était plus accepté par la société, peut-être que ça serait aussi plus facile de dire non, et peut-être surtout que les garçons pourraient entendre le non pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai non. Voilà, est-ce que la clé pour des meilleures relations entre les sexes, c'est que les filles, qu'on accepte que les filles expriment leur désir, que les filles apprennent à exprimer leur désir?
Ah bah moi, j'arrête pas de dire ça, et je pense que même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout mon chemin depuis le film et grâce au film et avec le film, et je dirais avec les filles avec qui on a parlé, tout mène vers ça. C'est-à-dire que Marie Dariussec, elle le dit dans le film, mais c'est qu'il y a les garçons tels qu'on est aujourd'hui, avec toute la domination masculine qu'on s'est pris dans la tronche, et toute cette violence, là on peut vraiment parler de violence, depuis un peu millénaire comme ça, il faut qu'il fasse peut-être un peu attention, mais c'est-à-dire réinvente aussi des codes, etc. Mais nous, les femmes, les jeunes femmes, le vrai boulot pour nous, c'est d'apprendre ça, ouais, d'apprendre à se réapproprier et peut-être juste à s'approprier son désir, à le comprendre, à le dessiner, à ne plus le rendre tabou. Mais c'est un, je dis travail parce que je pense que c'est un énorme boulot de dingue, en fait.
Ah oui, moi aussi, je pense que ça demande de l'aide des artistes, des séries télé, des films. Enfin, ça demande des représentations, ça demande des modèles parce qu'on va pas...
Oui, on peut pas le faire toute seule. Après, je sens qu'il y a un truc qui est en train de naître vraiment où moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les séries américaines, justement, de femmes. Enfin, il y a des tonnes de séries qui commencent à dessiner ça et qui sont géniales, enfin vraiment génialissimes. Donc je sens qu'il y a un mouvement, mais qui est encore trop isolé, qui est une petite niche justement artistique. Mais déjà, apprendre, enfin faire comprendre à quelqu'un que ses intuitions, c'était pas avant même de parler de désir, parce que des fois on ne sait pas ce qu'on désire réellement. On a des sortes d'intuitions vagues et enfin très jeunes, mais même plus âgées. On a le droit de les écouter. On peut un peu les écouter. Rien que ça, c'est... Enfin, moi, je sais que c'est une première base. Après, le désir, savoir ce que ça veut dire, c'est encore autre chose. Mais c'est... là, pour le coup, c'est un continuum. Mais moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai un petit garçon de 7 ans.
Ah, alors ?
Alors, alors moi, et on en rigole avec une fille qui disait si t'étais ministre du consentement, bref... Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce qu'on ferait si on avait en main cette éducation à faire et qu'on pouvait l'inventer ? La première chose, je ne sais pas, moi ça me semble tellement évident, c'est de transmettre cette notion. Alors peut-être pas de consentement, peut-être qu'en effet il faut trouver un autre terme aussi, une sorte d'égalité, de désir, j'en sais rien, mais de respecter l'intégrité d'une personne, déjà numéro un.
Mais concrètement, ça veut dire quoi pour un garçon qui a 7 ans ? Qu'est-ce que vous dites à votre fils ?
Ça veut dire que s'il veut pas que quelqu'un s'approche de lui, s'il veut pas de bisous, eh ben il a le droit qu'on lui fasse pas de bisous. Ça commence par ça, en fait. C'est-à-dire que moi, mon fils, justement, il aime pas les bisous. Aller chercher pourquoi, il m'a donné plein de pistes de travail pour le consentement. Il a décidé un jour, après avoir regardé un dessin animé où il y avait une petite fille qui faisait trop de bisous à un petit garçon, à Sam Sam en l'occurrence, que lui, il voulait plus de bisous. C'était fini. Et depuis, c'est la grande dispute intergénérationnelle. Il veut pas de bisous, tout le monde veut lui faire des bisous.
Les adultes ?
Bah beaucoup ! Il y a des adultes qui ne respectent pas le fait qu'ils ne veuillent pas de bisous. Donc moi, mon espèce de bataille, pas quotidienne, j'exagère, mais c'est de dire, en fait, non, il ne veut pas de bisous. Donc, tu peux lui dire à la main, tu peux lui faire un check, tu peux lui dire bonjour, comme ça. Et donc, c'est tout un travail, pour moi en tout cas, en tant que maman, et mon compagnon, c'est pareil, de dire, respecte ce qu'il veut. D'autant que lui, c'est le plus vulnérable et le plus possible. Donc moi, d'une part, de le protéger, mais lui aussi qu'il apprenne à se dire, moi, si je n'ai pas envie de ce truc... J'ai le droit de ne pas vouloir faire ce truc.
Et donc, peut-être que si les autres aussi expriment, elles disent qu'elles n'ont pas envie, bah, c'est probablement qu'elles n'ont pas envie non plus.
Bah oui, c'est ça.
Mais c'est hyper intéressant parce que ça m'amène à la question du consentement des garçons. En fait, dans l'un des épisodes précédents des Couilles sur la table, celui qui était consacré aux masculinités noires, il y avait Insa Sané et Dede Kabal, on a abordé cette question du consentement des garçons. Et à un moment, Dede Kabal explique que lui a beaucoup insisté auprès de ses fils pour qu'ils questionnent leur propre consentement. Et au début, j'avais mal compris. Je lui dis, mais pour qu'ils apprennent à respecter le consentement des filles. Ils m'ont dit, non, non, non. Pour qu'ils apprennent à respecter leur propre consentement. Pour qu'ils se posent la question de, est-ce que j'ai envie de coucher avec cette fille, en fait. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ? Est-ce que finalement, les garçons ne doivent pas, eux aussi, apprendre à respecter leur propre consentement, leur propre désir ? Parce qu'on vit aussi dans une culture qui semble les pousser à la performance sexuelle, à l'action sexuelle, avec l'idée que bah, s'il y a une occasion sexuelle, il faut absolument qu'ils sautent dessus, et qu'il n'y a rien de pire que d'être un puceau.
Je pense que c'est... Il y a tout un travail chez les filles, voilà, de connaître leur désir, et de tenter de l'explorer, etc.
Et de l'exprimer.
Et de l'exprimer, on est d'accord, déjà le connaître puis l'exprimer. Mais les garçons, je pense que c'est ça qui était intéressant, et c'est ce qu'on a cherché à faire dans le film, et j'espère que ça passe, c'est que les garçons aussi subissent une tonne d'injonctions hallucinante sur ce qu'ils doivent être et sur ce qu'ils doivent manifester comme virilité et tout ce garçon qui dit je pense que le pire truc pour un garçon c'est de pas bander, enfin c'est hallucinant, ça veut dire que eux aussi on leur fout tellement la pression. Et donc ce qui est vachement intéressant, j'ai aussi un copain qui a vu le film et qui m'a dit ah c'est marrant, au départ quand tous les garçons voyaient ce film ils me disaient tous oui, c'est vrai que ça me fait penser à moi, mes histoires. Ça m'a interrogée dans les histoires que j'ai vécues. Est-ce que je n'ai pas forcé quelqu'un à un moment donné ? Et ce fameux garçon, à un moment donné, me dit « Ah oui, c'est super ton film, d'ailleurs ça m'a fait penser à que... » Et donc j'ai cru qu'il allait me dire la même chose. Et en fait, il m'a dit « Moi aussi, il y a des fois où je ne voulais pas et je l'ai fait. » Et donc au début, j'ai un peu rigolé. Et je lui dis « Tu rigoles ?» Et là, et puis tout d'un coup, il me fait, mais non. Et en fait, je me suis dit, ah, attention, je vais pas avoir fait ce film pour me moquer de lui et pas l'écouter au moment où il me raconte un truc hyper intéressant et où justement, tout le but, c'était de créer un dialogue. Donc, je trouvais ça... Et depuis, ça me trotte énormément dans la tête et je me dis, il y a... C'est ce que je raconte aussi par rapport à mon fils. Je pense que vraiment, les garçons dans la cour de récré qui disent justement à mon fils, parce qu'il aime pas se battre, qu'il aime pas, je sais pas, tel truc, t'es pas un mec, à 7 ans, il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'ils ont reçu ça de quelqu'un qui a
envie
de
leur dire. Oui, c'est sûr, l'éducation genrée, ça arrive très vite.
Donc ça veut dire que c'est super grave. Donc t'es pas un mec, donc t'es pas costaud. Donc quand ils auront 12 ans, s'ils n'ont pas emballé une nana, ça sera la cata. S'ils n'ont pas vu de porno, j'en sais rien. Mais je me dis que si dès le départ, on leur dit, ben en fait, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de nanani, t'as le droit. Enfin, j'ai l'impression que
t'as le droit de pas
avoir
envie. T'as le droit de pas avoir envie de coucher avec cette fille. T'as le droit d'avoir eu envie il y a 5 minutes et plus maintenant en fait. Et c'est ok, t'es pas obligé de le faire, etc. Mais je suis d'accord. En même temps, c'est très gênant parce qu'en fait, les victimes de violences sexuelles, c'est quand même en majorité les femmes. Donc
bien sûr, mais si on part du point de vue, si on se dit ok, on a décrit le problème et on parle des victimes qui racontent leur récit. Mais si on prend la discussion un cran, non pas au-dessus, mais après, et qu'on s'interroge ensemble sur ces injonctions-là, à la fois sur les filles et à la fois sur les garçons, on s'aperçoit que les injonctions, dans la réalité, c'est vrai que c'est les filles qui en souffrent le plus, mais les injonctions, elles sont, je pense qu'elles sont à égalité. Elles sont pourries à égalité. Enfin,
ouais, bah c'est tout l'objet du programme Les couilles sur la table, en fait, aussi. C'était de déconstruire ce truc-là. Mais c'est vrai que dans l'apprentissage du consentement, c'est vrai qu'on voit pas bien comment les garçons peuvent respecter le désir des autres si eux-mêmes n'ont pas conscience de leur propre désir, en fait.
Non, c'est ça.
À quoi ça ressemblerait très concrètement un cours d'éducation sexuelle parfait pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait aborder absolument et qui devrait dispenser cette éducation-là?
Alors, je pense qu'on est en train d'y réfléchir justement avec une amie et avec une collègue. Bah, la notion du consentement et du désir, peut-être prononcer le mot désir à un moment donné, ça serait déjà bien. Donc, comprendre qu'on est deux personnes avec des corps et des envies différentes, ça serait bien. Je pense qu'il faut quand même qu'on connaisse... Je ne sais pas comment on pourrait rendre ces cours d'éducation sexuelle moins hilarants pour les jeunes. Je pense qu'il faudrait des plus petits groupes. Je pense que dans tout ce que j'entends chez les personnes qui font ces cours-là, il faudrait des plus petits groupes. Alors, ça coûterait cher, oui, mais je pense que c'est quand même important. Ça nous sauverait bien des problèmes plus tard. Des plus petits groupes où il y a une réelle intimité et où on peut poser des questions. Je pense que malheureusement, il faudrait que ça soit les filles d'un côté et les garçons de l'autre pour qu'on puisse parler ouvertement et que ça soit en amont et pas après au planning familial quand il nous arrivait un truc un peu catastrophique. Pour moi, j'ai pas de réponse par rapport à la théorie, à part évidemment inclure le consentement et inclure le fait qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on nous propose. Déconstruire ces mythes-là aussi, des injonctions, je pense que ça serait génial de pouvoir en parler, de pouvoir dire oui, qu'est-ce qu'on vous pousse à être dans la société et vous, comment vous vous sentez, quitte à ce que la personne ne réponde pas et juste se fasse sa petite cuisine tout seul.
Et peut-être aussi des notions, je me disais par exemple celle de sidération, il y a une des filles à un moment qui dit mais le mec il était en train de me toucher. Et moi, je bouge pas, je suis comme une épave, et le type, ça l'alarme pas, quoi. Alors qu'en fait, elle est sidérée. Et ça, c'est un vrai phénomène physiologique de voilà, on est paralysé, on est sidéré, on peut pas bouger, en fait.
Ouais, expliquer que justement, peut-être... Enfin, voilà, c'est-à-dire, on vous dit, voilà comment ça va se passer, vous devez mettre une capote et vous devez faire gaffe pour pas...
Attraper des bébés, des maladies.
Voilà, des maladies où la jeune femme tombe enceinte. Mais on ne dit pas, et après, toutes ces expériences après, quand on n'est pas sûr, quand on est amoureux, quand on n'est pas amoureux, j'en sais rien. Pourquoi on n'explique pas aussi que ces moments de confusion, on prend un peu des cas, faut presque prendre des cas pratiques, quoi. Une situation, lui a envie, elle a pas envie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Presque un cas pratique, quoi, qu'on parle ensemble.
Ouais.
Presque des jeux de rôle, ouais. Mmh. Ça serait super intéressant. Mais en tout cas, qu'on ne fasse pas comme si, après, c'était simple. Et qu'après, on savait, une fois qu'on l'avait fait une première fois. On en parle comme si, ta première fois, ma chérie, il faut que tu le fasses avec quelqu'un que tu aimes. Est-ce qu'on dit ça aux garçons, déjà?
D'abord, on dit pas ça aux garçons, parce que l'important, c'est « vas-y, mon gars ».
Faut bien que tu le fasses un jour.
Voilà.
Dépêche-toi. Mais surtout, voilà, quand tu le fais, quelles vont être les situations dans lesquelles tu vas à peu près te situer? Ça, c'est l'école, mais c'est aussi les parents. Et c'est pas juste respecte ce que dit la fille, c'est et toi, qu'est-ce que tu vas respecter pour un garçon?
Ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce sujet du consentement sexuel. Donc, il y a ce documentaire qui est diffusé sur Infrarouge le 6 mars à 22h55 sur France 2. Et vos documentaires qu'il faut absolument écouter, réécouter pour l'émission Les Pieds sur Terre. Qu'est-ce que ce travail-là que vous faites a changé dans votre vie personnelle, dans votre rapport aux hommes? et ou à la masculinité, ou masculinité, à la virilité.
Je sais pas, c'est comme si ça avait... Moi, je suis avec un compagnon depuis longtemps. Et donc, ce film et tout ce travail a été concomitant à d'autres découvertes de ma part. Donc, ça a changé énormément de choses qui seraient difficiles à exprimer dans ce podcast, qui est tellement... Elles sont intimes, mais elles sont très profondes. C'est-à-dire que ça m'a aidée à être dans le dialogue et dans une affirmation, je pense, de moi ou de mes... Même quand c'est pas clair si c'est mes désirs ou mes incertitudes, mais en tout cas dans une... Dans un mouvement de, oui, d'expression, de
d'auto-affirmation.
Désir, d'auto-affirmation, tout simplement. Et aussi, parallèlement, de meilleure compréhension aussi un peu des garçons. Enfin, c'est-à-dire que ça qui n'est pas terminé, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement où je me dis, et j'espère que le film tend vers ça, c'est-à-dire comment... bon Dieu, on peut mieux parler, quoi. Moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça m'a... Ça s'arrête pas, en fait. En fait, il y a un truc où je sens que ce sujet et cette notion va m'accompagner longtemps parce que je trouve qu'elle est... Elle est pas réductible en deux minutes, quoi. On peut en parler pendant des heures parce que ça touche tellement de sujets, parce que ça touche l'intimité de chacun, ça touche les structures sociales, enfin, ça touche tellement de trucs que c'est un peu infini, quoi.
Ouais, c'est drôle parce que c'est exactement le contraire de ce que dit le garçon au début de « bon bah voilà, le consentement, c'est quand des personnes sont d'accord, alors qu'en fait on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. » Et d'ailleurs, on va continuer à en parler dans le podcast « Les couilles sur la table ». On va continuer à parler de consentement et de séduction hétérosexuelle, notamment avec Éric Fassin. Pour terminer, Delphine Dilly, quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander ?
En fait, l'un des livres qui m'a nourrie, il y avait Clève de Marie Dariussecq, où elle raconte l'entrée dans la sexualité d'une jeune fille de 14-15 ans. Et c'est-à-dire où elle questionne tous ces trucs-là, le désir. Et ça, c'était pour moi une œuvre vraiment importante. Et puis, il y avait Mémoire de fille de Annie Ernaux, qui, je pense, enfin, j'ai reçu, je pense, 20 textos au moment où le livre est sorti pour me dire c'est sur ton sujet, c'est sur ton sujet,
ouais, c'est sur ton sujet.
Donc, c'était fascinant. Et puis, c'était des voix d'âge différents, de moments différents. Donc
une autre époque et tout, mais en fait.
Voilà. Ouais. Et puis, moi, alors, c'est une œuvre pour moi, mais c'est vrai que. Et là, peut-être qu'on peut ne pas être d'accord, mais si je dois la recommander, c'est peut-être pas par rapport au consentement, mais c'est vrai que la chanson de O2N qu'on utilise à la fin du film.
Qu'on peut pas passer pour des questions de droit, mais qui dit voilà. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous voulons nous baiser.
Voilà. Donc, c'est leur œuvre un peu en général, et surtout leur dernier album qui nous a vachement nourris. Je dirais dans l'énergie aussi du film et de la qui s'appelle Dolzigger Strasse et qui nous a en fait, il se trouve que c'est une œuvre de trois garçons et que ils ont fait la musique du film et que pour nous c'était déjà aussi une forme de dialogue et que il y avait une sorte d'énergie revendicatrice aussi de sexe et d'amour et de
désir exprimé
et de désir,
et des communications
en fait. Et moi je trouvais ça
d'accord. Voilà. Donc le dernier album de O2N.
Voilà.
Merci Delphine Dilly.
Merci à vous.
C'était le 13e épisode des Couilles sur la table, un podcast produit par Binge Audio. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les références sur le site de Binge Audio, binge.audio. Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a interpellé, fait réfléchir, parlez-en autour de vous et racontez-moi vos discussions, ça m'intéresse. Et puis regardez ce documentaire Sexe sans consentement et faites-le regarder autour de vous, surtout aux plus jeunes. Continuez à m'écrire, promis, je réponds. L'adresse c'est lescouillessurlatable@binge.audio. Merci, ciao.
Binge.
Bonjour, je suis Azita Vician. À partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes.
Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis ? Il y a une histoire quand même derrière tout ça.
Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la vie russe.
Roule une boulette.
Une boulette.
Une boulette.
Il y a une technique pour bien rouler ?
Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Et puis, ah oui, on a des battles de boulettes.
Casserole, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio, Apple Podcast.
Podcast.
Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, SoundCloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées.
Binge Audio.
J'ai réussi à le dire en entier.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.